Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal, Jacques-Yves Molima.
Journée mondiale de lutte contre le sida sur le 1er décembre de chaque année. En cette année, la journée est commémorée en plein milieu d'une autre pandémie qui est la Covid-19. L'occasion pour le programme national multisectoriel de lutte contre le sida de continuer la sensibilisation sur l'existence du sida. Il ne faut pas l'oublier. Et puis cet effectif, les armées congolaises et ougandaises ont lancé depuis hier mardi les opérations conjointes pour neutraliser les terroristes des ADF dans l'est de la RDC. Ces opérations se déroulent dans la chefferie de Watalinga à la frontière ougandaise. Enfin, notre invitée dans cette édition du journal, c'est Julienne Lusenge. Elle est directrice du Fonds pour les femmes congolaises. Elle nous parle de la reconnaissance de son travail et de sa lutte pour les droits de la femme en cette période des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Voilà tout pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce mercredi 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Cette journée est un moment de réflexion sur ce qui est accompli en matière des interventions dans la lutte contre le sida et sur ce qui reste à accomplir. Cette année, la journée mondiale du sida arrive en plein milieu d'une autre pandémie qui est la Covid-19 qui menace l'accès à la prévention, au dépistage, au traitement et aux soins du VIH. Au Sud Kivu, la coordination provinciale du programme national multisectoriel de lutte contre le sida PNMLS a réalisé une série de messages pour sensibiliser la population à prendre conscience que le sida est là et qu'il ne faut pas l'oublier. Nous vous proposons l'un de ces messages. Suivez.
Je suis solidaire avec mon frère et ma sœur qui souffrent du VIH. Fait de même. Assumons-nous nos responsabilités dans les ripostes contre la pandémie du sida. Répandons l'amour, évitons la discrimination et stigmatisation. Nul ne doit vivre en marge de la société à cause de son statut sérologique. Soyons solidaires et responsables. La lutte contre le VIH-sida me concerne. Je me protège et protège les autres. Barrons la route au sida. Donnons plus de moyens au personnel soignant pour une lutte efficace contre le VIH-Sida au Sud Kivu. Unissons-nous pour atteindre les objectifs 95 dans notre province. La pandémie à coronavirus ne doit pas nous faire oublier le VIH-Sida. Continuons l'effort collectif dans la lutte contre le VIH-Sida au Sud Kivu.
Parlant toujours du sida, mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, mettre fin aux pandémies, c'est le thème retenu pour cette année. Dans son message, la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique appelle à l'impérieuse nécessité urgente de mettre fin aux inégalités et qui alimentent le sida et les autres épidémies dans le monde. Cela fait 40 ans que les premiers cas du VIH ont été notifiés. Pourtant, le sida reste un problème majeur de santé publique en Afrique comme dans le reste du monde, rappelle le docteur Mati Dissou-Mouetti. L'année dernière, 2 nouvelles infections par le VIH sur 3 se sont produites dans la région africaine et l'on a enregistré à peu près 2500 nouvelles infections par le VIH chaque jour. Malheureusement, malgré le libre accès à un traitement efficace, le sida a coûté la vie à 460 000 personnes, soit un chiffre effarant de 1300 décès chaque jour, ajoute-t-elle. Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs, les opérations avaient été presque annoncées le lundi dans la soirée au cours d'une conférence de presse conjointe entre le porte-parole du gouvernement de l'armée et celui de la police nationale congolaise. Les FARDC et l'armée ougandaise ont débuté hier mardi matin des opérations militaires contre les positions des rebelles ADF dans la chefferie de Watalinga dans le territoire de Beni, frontalier avec l'Ouganda. Plusieurs détonations d'armes lourdes, Martial Papi Mukeba, ont été entendues dans la zone.
Des sources locales dans la chefferie de Watalinga indiquent que ces pilonnages ont été menés par l'armée ougandaise sur des positions des ADF situées dans la région de Kichanga près de Madina. Une information confirmée par la porte-parole de l'armée ougandaise. Le général Flavia Bikasso parle d'une opération planifiée et menée conjointement avec les FARDC.
L'UPDF et l'armée congolaise ont pilonné les positions des ADF. Il ne s'agit pas seulement de l'armée ougandaise. Cette opération a été planifiée par les FARDC et l'UPDF. C'est une opération conjointe.
Du côté des FRDC, aucun commentaire au sujet de cette opération. Le lieutenant Anthony Mualushai, porte-parole des opérations Sokola 1, se limite à appeler la population au calme, faisant remarquer que l'armée congolaise est en opération dans la zone.
La population doit se calmer. Nous sommes dans une zone opérationnelle et l'armée a une mission de traquer d'une manière définitive les ADF. Si on a des informations sur les ADF, on ne peut pas passer dans le média commencer à dire que demain nous allons attaquer les ADF.
Sur son compte Twitter, les porte-parole du gouvernement congolais parlent d'actions concertées avec l'armée ougandaise. Comme annoncé, les actions ciblées et concertées avec l'armée ougandaise ont démarré avec des frappes aériennes et des tirs d'artillerie à partir de l'Ouganda sur les positions des terroristes ADF en RDC, écrit Patrick Muyaya. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
En effet, les FARDC indiquent par ailleurs dans un communiqué publié hier soir que des opérations dédiées à l'éradication de la violence se sont menées contre les positions des ADF situées à Kambia Djoua sur l'axe nord du secteur opérationnel Sokola Grand-Nord. Ces opérations, note le communiqué, bénéficient de l'appui de l'artillerie des forces de défense du peuple ougandais UPDF. Les FARDC affirment par ailleurs que les fouilles se poursuivent pour nettoyer et sécuriser les positions touchées par les opérations. Le bilan sera rendu public dans les heures qui suivent, conclut le communiqué. Alors, pendant ce temps, ces détonations d'armes étaient entendues dans l'avant-midi d'hier mardi à Kiaboye et Mitembo, deux villages de la chefferie de Bahema Bogan, territoire du Rumu, à la limite avec l'Ouganda. Selon le président de la société civile locale, elles provenaient de l'autre côté de la frontière. Du côté des autorités militaires de l'Ituri, aucune communication n'a encore été faite à ce sujet, une situation qui inquiète la population. Elle dit espérer que les ADF présents dans la zone ne vont pas profiter de ces tirs pour s'attaquer aux civil, Jean-Claude Loki.
C'est tôt le matin, ce mardi 30 novembre, que la population de Kiaboye et Mitembo a attendu les premières détonations d'artillerie lourde tirées à partir du côté de la frontière ougandaise. Selon la société civile de Boga, ces tirs ont duré près de 6 heures. La population locale craint cependant que ces tirs ne poussent des rebelles des ADF à s'attaquer aux civils en signe de représailles. Albert Basseke.
La population de Boga s'attendait toujours à l'attaque qui a été promise par les ADF et ses alliés. Or, ce sont les UPDF qui tiraient leurs bombes à partir de l'Ouganda. Après ces bombes-là, qu'est-ce qui va suivre? On ne sait pas, la soirée nous dira quoi, ou soit la nuit, la population est toujours dans la peur.
S'il s'agirait des actions concertées entre l'armée congolaise et ougandaise pour traquer des rebelles des ADF, comme annoncé par le porte-parole du gouvernement dans un tweet, la population de cette entité se plierait à la décision du gouvernement, indique la société civile du Boga. Son responsable déclare que les habitants de ces entités sont souvent la cible des rebelles ADF qui profitent de l'absence militaire congolaise dans cette entité. Albert Basseke.
La population s'imagine, si jamais on envoie les troupes ougandais, c'est-à-dire qu'ils iraient juste sécuriser cette partie-là.
Toutes nos tentatives pour avoir la réaction des autorités militaires de l'Ituri n'ont pas abouti. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Toujours en Ituri, des combats se déroulent depuis lundi entre les FARDC et les groupes armés Codeco dans les localités de Djera et de Libi sur la route nationale numéro 27 dans le territoire de Djougou. Des sources concordantes avancent un bilan provisoire de 24 morts, dont 16 assaillants de la Codeco et plusieurs blessés. Le trafic est également suspendu sur le tronçon Bunia-Mahagi à cause des opérations militaires. Autre nouvelle, plus de 900 jeunes entrepreneurs congolais viennent de bénéficier d'un appui financier pour développer leur activité. Le ministère de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises a ainsi bouclé lundi la série des proclamations solennelles des résultats et présentations des lauréats du concours des plans d'affaires pour jeunes entrepreneurs et porteurs de projets dans 4 provinces pilotes. Pour cette dernière étape, ce sont 182 petits entrepreneurs du Congo central méritants qui ont reçu une importante subvention comme fonds de démarrage et de croissance de leurs petites moyennes entreprises. Billy Valutumba.
Grâce au gouvernement congolais à travers le PADEM-PME, projet financé par la Banque mondiale, c'est exactement 960 jeunes entrepreneurs de Kinshasa, Lubumbashi, Goma et Matadi qui peuvent désormais espérer prendre de l'envol avec leur initiative appuyée individuellement à plus ou moins 22 000 dollars.
À nous qui sommes sélectionnés, nous avons beaucoup de défis à relever. La croissance de petites et moyennes entreprises, la création de possibilités d'emploi et d'entrepreneuriat pour jeunes et femmes. À ceux qui ne sont pas malheureusement sélectionnés, le chèque est fatal, mais il n'a jamais été final.
Le coordonnateur du PADEM-PME, Alexis Mangala, a exhorté les bénéficiaires du COPA à une utilisation efficiente de ces fonds afin de créer encore plusieurs emplois et pourquoi pas faire partie des millionnaires congolais. Le consortium des lots Kivu Tech, en charge du jury, a procédé à une sélection basée sur l'âge variant de 18 à 35 ans, l'enregistrement d'une PME depuis plus ou moins 2 ans, œuvrant dans l'une des 4 provinces pilotes du projet et la présentation d'un plan d'affaires pertinent. À travers la matérialisation de ce projet, le ministère de l'Entrepreneuriat, par le biais de son conseiller en charge de l'entrepreneuriat Popol Biabia, affirme que l'entrepreneuriat congolais a marqué un grand pas pour l'émergence d'une classe moyenne en RDC composée des millionnaires congolais.
Et puis, début de l'opération de recouvrement forcé de la vignette à Kinshasa. Depuis le lundi, les Kinois connaissent de gros embouteillages sur les grandes artères de la capitale. Ces embouteillages sont accentués par de nombreuses barrières érigées par la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, appuyée par la police nationale congolaise pour effectuer le contrôle de tous les véhicules qui n'ont pas encore acheté la vignette. Selon Jean-Jacques Tembélé, directeur chargé du recouvrement à la DGRK, cette taxe ne concerne pas les véhicules mis en circulation en 2021. Ne sont concernés que les véhicules mis en circulation les années antérieures ou égales à 2020. Jean-Jacques Tembélé, beaucoup le dit au micro de Blaise Shindani Kambala.
Effectivement, les barrières que vous êtes en train de voir, c'est la matérialisation du contrôle sur place de la campagne vignette qui avait commencé depuis le 16 novembre 2020. La campagne vignette exercice 2020, nous avons annoncé à plusieurs reprises les lancements du recouvrement forcé et c'est aujourd'hui que la police est sur terrain pour vérifier avec la DGRK l'authenticité de la vignette et tous les défaillants en déclaration, tous ceux qui n'ont pas pu acheter la vignette exercice 2020 seront interpellés, immobilisés et ramenés auprès des différents sites de fourrière pour qu'ils s'acquittent de leurs obligations et par la suite, leurs véhicules seront libérés. La vignette, c'est l'impôt sur les véhicules et la taxe spéciale de circulation routière. Les motocycles, les véhicules automobiles, les unités flottantes et autres embarcations sont concernés. La seule condition, c'est que la date ou l'année de mise en circulation soit 2020 ou les années antérieures. Donc, les véhicules dont l'année de circulation est 2021 ne sont pas concernés pour l'exercice sous l'opération en cours.
Autre nouvelle, au Nord Kivu, l'aéroport international de Goma est désormais doté d'une nouvelle tour de contrôle répondant aux standards internationaux. Cet ouvrage de 26 mètres de haut a été inauguré hier mardi par le ministre congolais de Transport et Voies de Communication. Il est l'œuvre du projet de l'amélioration de la sécurité à l'aéroport de Goma sur financement de la Banque mondiale. Bernard Ngangi a assisté à cette cérémonie.
La nouvelle tour de contrôle de l'aéroport de Goma vient remplacer l'ancienne qui ne mesurait qu'à peine 8 mètres de haut. Cette dimension rendait difficile le travail du contrôle aérien, s'est réjoui le directeur général de la régie des voies aériennes, RVA, Alphonse Chungumaungu.
De l'ancienne tour de contrôle vétuste, dotée encore d'équipements obsolètes des années 70, exiguë, ne répondant plus aux exigences de visibilité des deux seuils de piste, la nouvelle tour de contrôle est l'un des plus beaux ouvrages aéroportuaires de cette fonction tant au pays que dans la région.
Si la tour de contrôle est désormais opérationnelle, il n'en est pas de son bloc technique qui, lui, reste encore inachevé. Le ministre des Transports a promis de s'y impliquer. Chérubin Okende.
Il aurait fallu qu'en plus de la tour de contrôle, que même le bloc technique soit parachevé. Je prends l'engagement de tout mettre en œuvre afin que nous ne nous plaisions pas des chantiers inachevés.
Rappelons que cette tour de contrôle est l'un des 6 ouvrages aéroportuaires que vient de finaliser le projet de l'amélioration de la sécurité à l'aéroport de Goma depuis 2015. Ce projet a été financé par la Banque mondiale à la hauteur de 52 millions de dollars, mais bénéficie également d'autres appuis, notamment du gouvernement congolais et de la MONUSCO. Goma, Bernard Ngangi, Radio Okapi.
Et puis à Lubumbashi, lancement lundi de la campagne de vulgarisation de la politique nationale de l'aménagement du territoire. À cette occasion, le ministre d'État Guy Luando a émis le vœu de voir la province du Haut-Katanga mettre en œuvre cette politique en vue de répondre aux attentes du gouvernement et de la population en rapport avec l'affectation, l'occupation et l'utilisation des espaces des ressources naturelles, du sol et du sous-sol. Les propos du ministre d'État Guy Luando a été recueilli par Jean Ngandou.
L'atelier qui s'ouvre ce jour a comme objectif principal de permettre à la province de Haut-Katanga de s'approprier les résultats de la réforme d'aménagement du territoire et surtout de mettre en œuvre la politique nationale d'aménagement du territoire, répondre aux attentes du gouvernement et de la population en rapport avec l'affectation, l'occupation et l'utilisation des espaces, des ressources naturelles du sol et du sous-sol, ainsi que assurer le développement durable de toute la province et le milieu périurbain de nos grandes villes. Un accent particulier sera mis sur la rénovation ou la modernisation de la ville de Lubumbashi et d'autres agglomérations de la province. Ceci aura comme finalité l'aménagement planifié, le développement durable, harmonieux et équilibré de nos entités tant urbaines que décentralisées en particulier et la République démocratique du Congo en général. C'est dans cette optique que j'ai mis sur pied le programme REVIT, qui veut dire Repensons à nos villages, villes et territoires, qui est le premier programme dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire.
Actualité internationale.
En Éthiopie, la guerre continue entre le gouvernement fédéral et la coalition rebelle menée par l'insurrection tigréenne. Depuis quelques jours maintenant, le front s'est stabilisé à environ 200 km au nord de la capitale Addis Abeba. Le premier ministre Abiy Ahmed s'est rendu à proximité de la ligne de front par deux fois. D'après lui, la victoire est proche. Il appelle une nouvelle fois les rebelles tigréennes à se rendre.
L'invité.
Notre invitée dans cette édition du journal, c'est Madame Julienne Lusenge, directrice du Fonds pour les femmes congolaises. Elle nous parle de la reconnaissance de son travail et de sa lutte pour les droits de la femme en cette période de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Elle s'entretient ici avec Rosalie Zawadi. Suivez.
Madame Julienne Lusenge, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Goma où vous avez été primée par l'ambassade des Pays-Bas. C'est quoi d'abord ces prix-là?
C'est pas seulement moi, mais un groupe de femmes défenseurs ont été primées par l'ambassade à l'occasion de 16 jours d'activisme. Et donc, je suis parmi ces femmes-là. C'est certifier notre travail, encourager les femmes défenseurs sur tout ce que nous faisons pour essayer de transformer la société pour que les femmes et les filles puissent vivre en sécurité et que les droits soient respectés.
Avant ces prix, vous avez reçu les prix Aurora. Pouvez-vous nous parler également de ces prix-là?
Le prix Aurora, c'est le prix qui a été initié par les survivants du génocide arménien pour faire honneur aux gens qui les ont sauvés pendant le génocide, mais aussi pour encourager ceux-là qui sont en train de donner leur vie, de s'occuper des autres, de protéger les vies des autres, de mener des actions humanitaires et de promouvoir la paix et les droits humains. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai été cette année lauréate de ce prix. C'est vraiment une grande reconnaissance au niveau international et c'est une fierté pour notre pays que nous puissions arriver à avoir ce prix. Ce prix est accompagné de fonds pour renforcer ce que nous faisons, pour soutenir les groupes de femmes, pour soutenir les actions, pour améliorer la situation des femmes.
Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face dans ce travail-là de tous les jours et particulièrement en cette période?
Oui, vous savez, nous sommes toujours dans la guerre, ça fait plusieurs années. C'est d'abord de voir les personnes qui nous arrivent très affectées, des femmes victimes de viols ou des violences sexuelles, des femmes détenues esclaves sexuelles. Quand elles arrivent, elles sont complètement détruites. Des enfants à Bounia, il y a une fillette, elle avait 14 ans quand elle a été détenue esclave sexuelle. Et là, elle est revenue à 16 ans avec la grossesse. Sa sœur est revenue avec un bébé. C'est tout ça qui nous affecte et nous traumatise nous-mêmes. Parce que comment on peut imaginer un être humain qui pose des actes inhumains à son semblable? Et après, quand la justice ne facilite pas aux femmes à récupérer leurs droits, à être reconnues victimes et aussi que les auteurs payent les réparations, tout cela nous affecte. Ajoutez à cela maintenant le contexte socio-culturel. Vous savez, les femmes défenseurs sont considérées comme des gens qui ont perdu la tête ou des gens qui copient les blanches et amènent des comportements qui ne relèvent pas de notre culture. Et pourtant, c'est faux. Quand nous examinons nos sociétés traditionnelles, les femmes étaient vraiment respectées. Les femmes avaient leur place dans la société. On ne pouvait pas voir des actes comme ça. Mais aujourd'hui, on voit et les gens qui se disent pasteurs, et les gens qui se disent enseignants, et les papas, et les frères qui commettent des crimes, des viols sur leurs propres sœurs, sur leurs filles, sur leurs chrétiens et les élèves et tout. Donc c'est inacceptable. Tout cela, ça nous affecte. Ça nous affecte aussi quand nous devons travailler beaucoup. Nous travaillons beaucoup. Donc nous sommes mères, nous sommes épouses, nous sommes aussi activistes. Vivre tout ça, il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion pour assumer tous ces rôles et vivre normalement.
Alors, Madame Julienne Lusengue, en cette période de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, quel est votre souhait pour la femme congolaise?
Pendant cette période, le thème principal, c'est oranger le monde. Donc, il faut que nous puissions oranger le monde. Pour qu'il y ait la paix, il faut qu'on arrête les violences. Toute forme de violence faite à la femme, violence conjugale, violence sexuelle, viol de masse, tout ce qui est violence, psychologique, économique, il faut que ça s'arrête. Nous voulons voir les femmes congolaises s'épanouir, vivre en sécurité. Et ça, les dirigeants doivent agir. Ils doivent prendre des mesures concrètes. La justice doit fonctionner dans notre pays. Nous devons avoir des services de base. La femme ne doit pas continuer à aller chercher de l'eau à de longues distances. Elle n'a pas de soins médicaux, les moyens pour scolariser son enfant. Donc nous voulons voir les femmes congolaises aussi vivre comme les autres femmes. Nous voulons voir les femmes, le nombre de femmes qui participent dans la prise de décision augmenter. Oui, c'est vrai, le président nous a donné 27% à ce gouvernement, mais nous voulons que dans d'autres institutions aussi, qu'on puisse mettre des femmes. Nous pensons que s'il y a beaucoup de femmes qui entrent dans la gestion, nous pouvons arriver à résoudre les problèmes. Si nous gérons ensemble, hommes et femmes, nous allons arriver à bien gérer notre pays. Et c'est ça notre souhait. Nous voulons voir nos enfants, nos filles en sécurité.
Madame Julienne Lusengue, je vous remercie.
Voilà, complètement terminée cette édition du journal. Mise en onde par Mimi Kindou. La coordination était assurée par Noëlla Louzitou sous la supervision de Pele Kipela Mondou. Merci pour votre particulière attention.